Amis fidèles de la radio Dunia Web, bonsoir. Dans le cadre de sa nouvelle politique pour l'année 2018, la radio Dunia Web accorde une importance capitale à l'actualité politique et sociale des Comores. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous recevons dans nos studios le CEDISCOM, le collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores. Avec nous, M. Mahabadi, qui est le coordinateur du collectif, et M. Hachmo, qui est le responsable de communication du collectif. Nous allons ensemble aborder plusieurs questions, notamment c'est la relation avec les assises, censées se dérouler aux Comores à partir du 5 février prochain, mais aussi sur la question de l'île comorienne de Mayotte. Nous aurons aussi l'intervention de notre constitutionnaliste Mohamed Rafsanjani, qui pour des raisons personnelles n'a pas pu honorer ce rendez-vous. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez réagir à travers notre live Facebook sur la page Dunia Web. Vous posez vos questions en commentaire et Abou nous s'en chargera de nous poser les questions et nos invités auront le plaisir de vous répondre. Donc sans plus tarder, nous allons aborder la première partie de notre émission qui se consacrera sur la question de Mayotte. Donc, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole à nos invités de nous présenter un peu le collectif qui là aujourd'hui. Je pense que ça sera à monsieur le chargé de la communication de nous en parler.
Alors, le CEDISCOM, c'est le collectif de défense de l'intégrité et de la souveraineté des Comores. C'est un collectif qui regroupe donc des enseignants, des intellectuels, mais aussi des citoyens, travailleurs, voilà, et qui donc ont envie de participer activement à la souveraineté et l'intégrité territoriale des Comores. C'est-à-dire, c'est dans l'intérêt général, en fait, l'intérêt de défense d'un territoire. Et donc, c'est pas une question qui concerne uniquement un parti politique ou une association particulière, mais c'est une question qui concerne tous les Comoriens qui font partie de la diaspora ou qui sont aux Comores. Voilà. Donc ça c'est voilà. Et à l'intérieur du CEDISCOM, comme je viens de l'expliquer, il y a au sein du collectif. Au départ, c'était simplement un collectif regroupant toutes ces personnes-là, divers corps professionnels. Mais là maintenant, c'est une association, hein, donc avec un coordinateur, un secrétaire général, et puis donc un bureau, un conseil d'administration, comme la plupart des associations. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, pour adhérer, si on peut dire, à ce collectif, il faut faire partie d'une association ou un citoyen lambda, un Comorien qui est animé par ce sentiment de patriotisme peut venir s'adhérer à la...
Ah ben en fait, tu viens exactement de dire ce qu'il faut. C'est-à-dire, c'est ouvert à tout le monde. Et plus particulièrement, les citoyens comoriens qui sont animés de patriotisme, effectivement, et qui n'ont pas d'intérêt particulier, même si on a un intérêt particulier, qu'on fait partie d'un parti politique, puisque aussi les partis politiques sont bien accueillis, sont les bienvenus aussi, puisqu'en fait, l'idée, c'est de travailler avec tous les corps. D'accord, les partis politiques, des professeurs, toutes les personnes qui réfléchissent sur l'intégrité territoriale et qui veulent défendre ce pays, ils sont les bienvenus, et animés d'un patriotisme ou pas, ou qui ont envie de s'éclairer, d'apprendre davantage sur les questions juridiques, sur les questions... Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question, comment ça se ferait au bout de 40 ans que Mayotte n'est pas libérée ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui cloche ? Donc nous, on est un petit peu là, étant spécialiste, je parle de la structure, pas moi personnellement, depuis des années sur ces questions, pour éclairer la population, leur dire que quand on a droit à quelque chose vous appartient, vous avez le droit de l'exiger, fait, de le revendiquer. Hein. C'est pas un frein à la loi que de réclamer ses propres droits. C'est ce qui se passe au Comores avec le territoire occupé de Mayotte.
D'accord. Parlant de la question de Mayotte, on a vu que ça fait bientôt 20 ans que plusieurs mécanismes et dispositifs ont été mis en place justement pour essayer de trouver une solution à ce problème. Donc on a vu, il y avait le GTHN, le groupe de travail de haut niveau, il y avait le HCP, au conseil paritaire, il y a le groupe mixte. Le comité mixte franco-comorien. En fait, aujourd'hui, j'aimerais bien que, parce que le citoyen lambda, parfois, il se perd. tellement il y a des dispositifs qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces comités, ces commissions, ces dispositifs et la genèse de tous ces mécanismes? Je pense qu'on va donner un peu la parole
à Mabadib.
Oui, bonjour à tous les auditeurs. Donc, effectivement, il y a beaucoup de concepts que l'on a retrouvés dans les différents papiers, dans les différents communiqués à la fin de l'année dernière. Hein. On a parlé de commission mixte parce que un communiqué a rendu un rapport qui serait signé par le ministre des Affaires, par Souleymane et par un certain Rémi Maréchaux. Donc, présenter un peu ce que c'est que cette commission mixte. Donc, nous avons commis un communiqué qui se trouve sur notre blog skyrock.cdiscom.
On va en parler.
Là-dedans, nous révélons que la commission mixte remonte en fait à bien avant l'ère du régime Azali, que nous appelons Azali numéro 1, c'est-à-dire vers les années 2005. Pourquoi nous nous reportons à cela? C'est parce que cette commission mixte, nous avons découvert à l'époque, donc il y a 12 ans maintenant, que des accords qui étaient préparés de manière opaque tendaient à confirmer en fait la frontière qui est instaurée entre Mayotte et les autres îles des Comores. Alors, comment on manipule cet outil? Cela se retrouve dans les différents régimes qui ont suivi. En général, l'été, le président est reçu, et donc on parle de préparer des accords franco-comoriens, et ensuite, vers l'hiver, en disons septembre-novembre, on dit qu'on va sortir des accords qu'on va signer. Et donc là, dès 2005, nous avons dit non, ça ne va pas, parce que ce que vous allez signer, c'est sûr, ça va se rapporter à la libre circulation dans l'archipel. Or, cela relève, pour les Comores, internationalement, selon le droit, cela relève de la politique interne des Comores. Parce que la France est un pays en coopération parmi tant d'autres pays. D'accord? Alors, si la France arrive et dit nous allons présenter des accords pour vous demander à vous Comoriens de nous aider à contrôler la circulation vers Mayotte, le Comorien qui signe ça, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît que Mayotte n'est pas Comorien.
Est-ce que les autorités comoriennes ont véritablement le choix aujourd'hui? Est-ce qu'on a le pouvoir de s'opposer à la France? Certes, on est deux États indépendants, mais après le rapport de force aujourd'hui, sans vouloir se mentir, on voit que ça joue du côté de la France.
Alors, c'est une question qui est difficile à débattre là. Comme disait Hashimo, nous sommes dans notre droit. Et donc, c'est de notre devoir de dire qu'il y a le droit international valable pour tout le monde. Et le droit international, il dit que nous avons accédé à l'indépendance. Et en 1975, l'ONU, par une résolution, décrète que l'archipel a accédé à l'indépendance dans son ensemble en étant composé de 4 îles, dont l'île de Mayotte. Donc à partir de là, il y a une superpuissance qui dit le contraire. Nous continuons à dire non, c'est pas juste. Parce que c'est dangereux de laisser une superpuissance aller contre le droit international. On ne peut pas laisser, par exemple, Israël
occuper la Palestine
et commettre des forfaitures sans dire ça ne se fait pas. Est-ce que la Palestine a la même force qu'Israël?
Non.
Probablement pas. Mais il y a une détermination qui fait que on se lance dans ce type de combat et on doit gagner. Parce que le droit, il est vital pour toute l'humanité.
Est-ce que je peux intervenir? Puisque là, on tient justement un sujet qui est très, très important, c'est la question du droit. Or, nous avons Rafsanjani avec nous, donc notre compatriote, donc doctorant en droit public, qui pourra peut-être mieux nous éclairer sur les questions de droit, mais je me permets, donc, sous son contrôle, de rappeler un certain nombre de choses sur la question de Mayotte concernant le côté juridique. Il faut savoir que la question de Mayotte, c'est une question juridique d'abord. C'est-à-dire qu'il y a, comme ça a été rappelé par Amabadi, il y a la résolution 3385 de l'ONU qui dit que les Comores sont composés de quatre îles, Grande Comore, Anjouan, Moïli et Mayotte. Ensuite, il y a une vingtaine de condamnations donc, contre la France pour son occupation de l'île comorienne de Mayotte. Et ensuite, il y a plusieurs résolutions, dont une qui stipule qu'aucune consultation ni référendum ne peut être organisé par la France sur le territoire de Mayotte. Ce référendum-là et ces consultations-là seraient de toute façon nulles et non avenues. Et toutes ces questions juridiques, ce sont des éléments qui nous permettent aujourd'hui, que ce soit un citoyen comorien, que ce soit l'État comorien, de revendiquer donc le territoire de Mayotte, même si l'argument de la superpuissance qu'est la France dit que bon, de toute façon, les Maorais ont décidé de rester français. Mais vous savez que tout citoyen du monde peut demander la nationalité de n'importe quel pays, français, comorien, canadien, américain. Mais la question de territorialité ou de frontières, c'est une question qui relève du droit international. Donc, ce n'est pas parce que les Maorais sont français que le territoire comorien de Mayotte est forcément français. Alors, je voulais juste, je ne vais pas me faire passer pour l'animateur, mais j'ai juste, puisqu'on parlait de questions juridiques.
Oui, si notre ami Rafsanjani peut intervenir pour nous éclaircir sur la question d'un point de vue juridique.
Bonsoir aux auditeurs. Alors, je voudrais effectivement confirmer que la question de Mayotte, c'est une question juridique, d'abord. Et je dirais même que c'est une question juridique tout court. Effectivement, ce qu'il faut que les Comoriens comprennent, c'est qu'il ne faut jamais accepter que l'on vienne vous expliquer que Mayotte n'est pas dans notre droit. D'abord parce que dès le départ, tout le droit est de notre côté. D'abord, le référendum qui a été fait n'a pas été fait dans les règles. Vous savez, quand vous faites un référendum, c'est une élection, hein, vous ne pouvez pas le diviser. Hein. Le suffrage universel est indivisible. Donc on ne peut pas venir dire « Ah, mais il y a trois îles qui ont voté, la dernière n'a pas voté pour, donc la dernière ne peut pas être indépendante. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ensuite, les résolutions de Nations Unies sont assez claires. Hein. Non seulement ils reconnaissent que l'archipel des Comores, c'est quatre îles, mais en plus de ça, les résolutions intiment à la France de quitter l'île de Mayotte. Hein. On demande à la France de quitter Mayotte, qui fait partie intégrante de l'Union de les Comores à l'époque. Aujourd'hui, le droit est de notre côté. Et l'argument de la force et l'argument de la superpuissance est complètement... Il faut l'écarter. Parce que le propre du droit, c'est justement de protéger le faible contre le fort. De protéger le rusé contre l'idiot. C'est ça, le droit. Donc, aujourd'hui, on doit continuer ce combat et à chaque fois rappeler que le droit est de notre côté et qu'un jour ou l'autre, il va bien falloir reconnaître l'évidence. Je souscris à ce qui a été dit, à ce qui a été dit au préalable.
Je pense que M. Barbani, vous avez à compléter sur la question avant d'aborder un peu sur d'autres points.
Vous avez présenté commission mixte et HCP, donc je voudrais compléter un point sur la commission mixte, à savoir que c'est un outil utilisé dans la diplomatie en faveur des intérêts de la France, qui dit...
Pas des Comores.
En faveur de... dans le cas de la coopération entre la France et les Comores, la France utilise cet outil en faveur de ses intérêts à elle, de la manière suivante. Elle dit, ok, nous avons un contentieux, là on parlera peut-être plus loin du fait que aux Nations Unies, il y avait ce qu'on appelle la question de Mayotte dans l'Assemblée générale, qui est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée générale jusqu'à en 2005, quand ça a été retiré. On dira un mot là-dessus. Et donc ça arrange la France, parce que les Comoriens ont montré leur faiblesse. Donc on ne peut pas solliciter la communauté internationale pour faire des choses à la place d'un État qui ne réclame pas, hein, les autorités officielles qui ne réclament pas leurs droits. Et donc la France va dire, ok, mais nous sommes quand même en coopération. Il y en a même qui disent accord franco, accord d'amitié franco-comorienne. Donc nous sommes des amis. Ce dont on va se préoccuper, c'est la coopération orientée aide au développement. Et donc on manipule beaucoup de concepts là-dedans. Et déjà, je parlais de 2005, on disait... Ok, on va établir une coopération entre Mayotte et le reste des îles. Et là, c'est là que nous avons levé, il y a eu des levées de boucliers. Alors, actualisons maintenant, parce qu'en 2005, c'était le régime d'Azali. Et aujourd'hui, 12 ans après, on nous remet la même chose. Ça s'appelle commission mixte. Et ça met en avant, justement la primauté du développement. Alors entre les deux, on nous a vendu une phrase lapidaire qui consiste à dire développons les îles d'abord, on verra pour Mayotte. Donc ça, c'est du foutage de gueule qui consiste à séparer, à mélanger les choses et dire vous êtes pauvres et en plus vous êtes idiots, comme dirait le juriste. Et laissez-vous faire parce que on va y aller. Alors pour terminer ce point,
je voulais pas vous couper la parole, juste oui. Un petit éclaircissement là-dessus. Oui. Donc si j'ai bien compris, c'est un subterfuge de l'occupant, voilà, de dire qu'on va parler de tout sauf de l'essentiel. Donc voilà, l'essentiel, c'est la question de Mayotte. C'est
okay. Aujourd'hui, ce qu'on lit dans la presse et qu'il y a dans les différentes communiqués, c'est la notion de développons l'archipel. Alors comment on va développer l'archipel? Ils nous font croire que ça permet de rapprocher Mayotte. Et comment? Et donc là, il arrive les élus maorais qui disent, ok, on n'a rien contre de développer l'archipel dans l'ensemble avec de l'argent sur la ligne FEDER, des fonds européens, puisque maintenant Mayotte, avec ce qu'on appelle la rupéisation, est un espace européen. D'accord ? Et donc, on fait tout pour nous dire que le message subliminal est le suivant. Quand vous êtes pauvre et que vous êtes en plus incapable de réclamer vos droits en tant qu'autorité sur Mayotte, vous allez vous calmer et on va vous aider dans le cadre de la coopération économique. Et évidemment, le piège, il est là, c'est que comme Mayotte, c'est vos frères, vous allez vous rapprocher en faisant de la coopération de proximité. Au temps de Sambi, on nous disait on va vendre les tomates d'Anjouan à Mayotte, etc., etc. Mais disons que là, c'est plus qu'un subterfuge, c'est vraiment... insolent, c'est plus qu'arrogant, c'est vraiment bafouer la dignité d'un peuple qui demande à être dans des rapports de coopération tout à fait normal.
On va essayer d'évoluer sur la question parce qu'il y a pas mal de points à souligner. S'il y a un point dont tout le monde est d'accord, c'est sur la comorienté de Mayotte. J'ai envie de dire, même le chef de l'État, le président Azali Assoumani, l'a déclaré dans un discours, ne serait-ce qu'officiellement, que Mayotte est comorien. Mais s'il y a un point où on diverge, c'est sur la façon de revendiquer Mayotte. Aujourd'hui, les autorités comoriennes disent qu'on n'a pas de solution que d'aller dans la discussion avec la France. Donc, avant, ça se faisait entre les Comoriens et la France. Aujourd'hui, ils ont intégré les Comoriens de Mayotte. Enfin, les élus, disons, certains diront les élus français de Mayotte. Moi, je dirais les Comoriens de Mayotte. Vous n'avez pas vu ça d'un bon oeil. D'ailleurs, vous avez sorti un communiqué faisant suite à la réunion du comité mixte où vous dites que c'est pas normal que les Comoriens acceptent de discuter avec des racistes. Ce sont vos mots qualifiant la personne du député Mansour Kamardine de raciste xénophobe. Où se situe le problème par rapport à tout ça, par rapport à l'implication des autorités ou des élus maorais dans la question ou dans la recherche d'une solution face à ce problème qui commence à durer?
Ok, donc dans le cadre donc de la commission mixte, ce qui s'est dégagé à un moment donné, alors on mélange effectivement avec le HCP. À un moment donné, c'est plutôt le HCP, on va peut-être en dire un mot tout à l'heure, qui a lancé le projet. Le HCP a lancé le projet de faciliter la circulation hein, parce que ça, c'est notre leitmotiv.
Oui.
D'accord. Mayotte et Comorienne, nous, notre préalable, c'est de supprimer ce visa baladur qui a tué les nôtres, par milliers, par an. D'accord. Et donc, il faut le supprimer. Et ensuite, on peut voir si on parle du droit et comment on va coexister ensemble. Or, ce qui est ressorti, c'est que on va garder ce visa et on va le rendre gratuit. C'est du foutage de gueule là encore, parce que
c'est le dossier qui est gratuit.
Voilà, voilà. Donc c'est pas ce qu'on demande. Mais regardez bien ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, les élus maorais sont montés au créneau et ils ont dit ah non. Cette gratuité, déjà, ça nous menace. Déjà qu'on a des problèmes d'immigration sur l'île de Mayotte, des Comoriens qui nous envahissent, alors c'est pas possible. Et que font les autorités comoriennes? Aidées par la France, ben, ils ont reculé. On ne parle plus de cette feuille de route. Vous voyez? Et donc, Mansour Kamardine, clairement, ne veut pas la libre circulation. Donc, pour nous, il n'aime pas les Comoriens dans leur ensemble, la comorianité partagée, le bon vivre ensemble, il n'y est pas du tout. Et donc on dit, c'est pas cela l'interlocuteur lorsque vous dites qu'on va chercher une solution quelconque pour rapprocher Mayotte des autres îles. Et pour peut-être anticiper sur notre point de vue là-dessus, ce qu'on dit depuis une vingtaine d'années, mais en tout cas à partir donc, de ce communiqué qu'on a fait pour critiquer Azali de sa politique passive, nous, on a toujours dit cette question doit sortir du dialogue bilatéral. Parce qu'on a un occupant et un occupé, vous n'allez pas nous balader sur une durée de plus de 10 ans.
Et le rapport de force est inégal.
Nous sommes en train de nous entendre comment sortir de là quand les faits montrent que depuis 2005, on est arrivé en 2008, on nous a humiliés. En 2009, on a départementalisé. En 2011, 2014, on a rupéisé. Pendant tout ce temps-là, on a dit qu'est-ce qu'on fait avec le visa baladur? C'est devenu une question inaudible. Donc, nous, on dit. Alors, on nous demande, mais vous voulez qu'on fasse comment?
Droit international. On arrivera sur les solutions à la fin.
Droit international, et donc c'est là qu'on se cale.
Je voulais juste rajouter une chose pour aller dans le sens de Mabadi. C'est que, effectivement, c'est un des points les plus importants, parce que quand on fait des communiqués, il ne suffit pas de critiquer, mais il faut aussi, mais il faut aussi apporter des solutions. Nous, je appuie ce que dit Mabadi. Nous demandons donc une discussion issue d'un arbitrage international, c'est-à-dire c'est terminé, parce qu'au bout de 40 ans, on voit bien que la position de la France, de la grande puissance, c'est de dire attendez, on va faire. Mais en ce moment-là, et pendant ce temps-là, il rupéise, il fait ce qu'il veut, il prend du terrain, il gagne du terrain, et puis voilà, les différents gouvernements comoriens arrivent. Et à Paris, à chaque fois ils arrivent à Paris, une fois qu'ils sont élus, pour demander des rallonges de budget, etc. Et pour parler de moins en moins la question de lutte contre l'immigration.
On arrivera sur les solutions que vous préconisiez, mais je voulais vraiment qu'on reste un peu là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils disent... D'ailleurs, vous avez vu les élus maorais, ils ont réagi, mais ils n'ont pas réagi d'un coup de tête. C'est sous la pression de la population maoraise. Donc il y a des gens, aujourd'hui, ils disent que ce n'est pas possible de parler de la question de Mayotte sans inclure les maorais. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une solution possible aujourd'hui sans faire participer les maorais, ces élus ou la population? En tout cas, une partie de la population.
C'est la raison pour laquelle nous demandons une discussion avec un arbitrage international pour tenir compte à la fois de la population comorienne de Mayotte et aussi tenir compte des questions juridiques du droit international, puisque la France tend à écarter de plus en plus le droit international, puisqu'elle le piétine. Donc, puisque ça ne marche pas depuis 40 ans, on demande à ce qu'il y ait une discussion entre les instances internationales et que la question soit réellement tranchée par l'ONU et d'autres instances internationales comme la Ligue arabe ou le UA, etc. quoi. Puisque n'oublions pas que les Comores, ce sont des îles africaines. Hein. Donc pour ceux qui veulent franciser ou apporter une culture qui n'a rien à voir avec la France européenne, les Comores, ce sont des territoires africains.
Vu qu'on parle de la participation des Mahorais, j'aimerais bien avoir l'avis du juriste sur le fait que des Mahorais ont participé à la réunion du comité mixte. Est-ce que ce n'est pas une sorte de capitulation de l'État comorien vis-à-vis de la France, du point de vue juridique?
Alors, d'un point de vue juridique, c'est contestable parce que la Constitution est très claire. En fait, la Constitution précise que tout acte ou toute mesure qui est pris par une autorité de l'Union ou de l'île, qui est de nature à porter atteinte à l'unité de la République ou à l'intégrité du territoire, est nul. Tout acte, il ne précise pas quoi. Vous signez un communiqué, vous signez un procès-verbal, vous signez un accord, mais dès qu'on peut l'interpréter comme étant portant atteinte à l'intégrité du territoire, c'est nul. Donc à partir de ce moment-là, lorsque vous accueillez des élus qui la plupart du temps viennent parler avec nos ministres, vous voyez, déjà il y a un problème de correspondance, on peut considérer comme étant un acte qui porte atteinte à l'idée de l'intégrité de notre territoire, donc qui peut être nul. Et tout ça, ce sont des problèmes qui sont compliqués, parce que il y a notre Constitution qui est très claire et qui ne peut pas autoriser tout cela, puisque la République est indivisible, l'intégrité du territoire est protégée, et puis après, il y a les intérêts politiques qui, malheureusement, ne prennent pas du tout en compte les textes et le droit. Et je pense que si on en est là, comme un de vos intervenants l'a précisé, si on en est là aujourd'hui, c'est dans l'ignorance du droit, tout simplement. Et pour cela, on ne peut pas continuer. L'erreur qu'on fait, c'est de vouloir régler le problème par le droit, mais de manière bilatérale. Ça ne va pas être possible. Parce que le droit ne peut pas faire tout à notre place. Donc il faut, au bout d'un moment, qu'on ait la volonté de le faire. Donc tous ces commissions, tous ces comités, tous ces accords, ces procès-verbaux, etc., ça ne peut pas être de nature à acter un recul de notre intégrité territoriale. Ce n'est pas possible, selon la Constitution. C'est même considéré comme un acte de sécession. Donc il faudrait faire très attention avec toutes ces pratiques-là.
Et en fait, je voulais aller dans le sens du juriste, c'est-à-dire que nous sommes là, nous parlons donc de droit français, etc., sur un territoire qui normalement est souverain. Il faut savoir que même l'ONU le stipule, dit que tout acte ou consultation, référendum qui se fait sur le territoire de Mayotte, c'est un acte nul. En fait, la rupéisation, les consultations, tous les actes que la France, les actes juridiques, les actes d'accaparement d'un territoire, les actes. Tous les actes, même l'administration même de Mayotte par la France, est un acte illégal. Voilà. Aux yeux du droit. Bon, maintenant, le juriste peut nous le dire. Mais nous, on se réfère par rapport au texte. Donc,
et vous savez que, voilà. Vous savez que la sanction, en droit, la sanction de la nullité d'un acte, c'est la rétroactivité. Le jour où on pourra reconnaître la nullité de tous ces actes qui ont été faits dans la contrariété du droit, il faudra remettre tous les gens dans la situation auquel ils étaient au départ.
En fait,
on va revenir à la situation de départ, qui est la situation normale, c'est-à-dire que Mayotte est comorienne, et qu'on n'aurait jamais dû arriver à cette escalade politique, qui n'est pas une escalade juridique, comme on en est aujourd'hui. Donc ce sont des actes qui sont nuls.
C'est justement là où la question est assez compliquée, parce que c'est ce que disent les autorités, je me réfère à ça, ils disent que oui, le droit international reconnaît Mayotte comme étant une île comorienne. Mais le problème, c'est que ces résolutions ou les résolutions onusiennes n'ont pas de réel impact sur le terrain.
Mais ça, ce n'est pas, ce n'est pas vrai. Ça, c'est l'argument, par exemple, qui a été soulevé par un juriste à Mayotte, j'ai oublié son nom d'ailleurs, qui expliquait que de toute façon, toutes ces résolutions... On n'en a pas cure parce qu'ils n'imposent pas de sanctions, ils ne sont pas obligatoires. Et on a eu d'ailleurs le même argument avec notre président pour dire pourquoi il ne respecte pas la Constitution, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. C'est méconnaître le droit. Parce que le droit, il existe beaucoup d'actes qui ne sont pas sanctionnés. Il y a une différence entre dire le droit et imposer le droit. Dire le droit, c'est obligatoire. Une résolution des Nations Unies, c'est une résolution qui dit le droit international. À partir de là, vous ne le respectez pas, c'est votre problème, vous violez le droit. Vous le respectez, vous êtes en accord avec le droit. La seule différence, c'est qu'on ne pourrait pas vous le faire sanctionner. Mais ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas parce qu'on ne vous sanctionne pas que vous n'avez pas violé le droit. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on a prévu des feux rouges, il y a toujours des gens qui violent le feu rouge. Mais ça ne veut pas dire que le feu rouge n'est pas obligatoire. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas sanctionné à un instant T que ce n'est pas obligatoire. Donc cet argument des résolutions, ça ne tient pas la route juridiquement. Mais c'est juste que ça joue avec les mots. Parce qu'en disant « ce n'est pas obligatoire », eh bien, en fait, on fait ce qu'on veut.
Au-delà de la sanction, moi, ce que je voulais vraiment qu'on en parle, c'est le réel. C'est le réel impact de ces résolutions, parce qu'on sait que la France est l'un des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Du coup, il bénéficie du droit de veto. Donc, toutes ces résolutions, même si les Comores ont l'appui des différents pays amis, aujourd'hui, on sait que ça ne peut pas aboutir.
Mais en fait, il n'y a pas que la question...
Mais c'est parce qu'en fait, normalement, il y a deux types de résolutions. Il y a les résolutions dont on parle ici, ce sont des résolutions qui sont prises par l'Assemblée générale. Les résolutions qui sont prises par l'Assemblée générale, la France et son droit de veto n'ont aucun moyen de les empêcher.
Oui, ça c'est d'accord.
Le problème, c'est une fois qu'il faut passer au Conseil de sécurité pour sanctionner. Là, effectivement, on a un problème avec le droit de veto. Et je voudrais d'ailleurs rappeler que l'histoire du retrait de la question de Mayotte à l'ordre du jour... Il est concomitant avec à une époque où les Comores présidaient le Conseil de sécurité. Parce que vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est une présidence tournante, hein, une bonne vieille présidence tournante. Et à cette époque, les Comores présidaient le Conseil de sécurité. Donc on avait une occasion, on avait un moyen, même s'il y avait le veto, mais on avait un moyen d'être entre guillemets dans la place. Et on aurait pu jouer, on aurait pu insister plus. Et c'est à ce moment-là, comme par hasard, que s'est posée la question du retrait de Mayotte de l'ordre du jour. Vous voyez, je ne crois pas que ce soit un hasard. Mais,
tout à fait.
Mais au moins, on a raté beaucoup d'occasions juridiques.
Donc, si j'ai bien compris, de toute façon, c'est bien clair qu'aujourd'hui, vous êtes aux antipodes des solutions préconisées par l'État comorien. D'ailleurs, vous le dites bien dans le communiqué que vous avez rendu public concernant la réunion du comité mixte, où vous dites que le président Azali, en tout cas le régime Azali aujourd'hui, n'est pas crédible pour défendre la question de Mayotte. Sauf que la constitution comorienne, là on revient sur le droit, lui reconnaît qu'il est le garant de l'intégrité du territoire comorien. Comment faire alors que, quand aujourd'hui vous dites que le régime actuel dirigé par le président n'est pas légitime pour défendre cette question, or la constitution dit que c'est lui qui doit défendre
cette question. Oui, en fait, Mabadi me dit qu'on va laisser... notre juriste répondre, mais sauf que dans cette question, il y a une partie qu'on peut répondre, l'autre partie peut-être nos juristes peuvent répondre. C'est-à-dire nous, sur le plan, parce que nous ne sommes pas un parti politique, mais nous réfléchissons aussi sur la politique, on a des idées politiques. Bon. Donc voilà, alors sur les Comores, sur les décisions, voilà. Donc, alors, la question, elle est politique et juridique. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des différents gouvernements comoriens lorsqu'ils arrivent au pouvoir. Donc, pour ne pas parler de la question de la revendication de l'île comorienne de Mayotte, je l'avais dit tout à l'heure en off, donc on vient à Paris pour demander une rallonge de budget, etc., pour essayer d'atténuer la situation. Et puis de l'autre côté, et puis après, ils ont dit le discours de l'autre côté aussi quand on leur pose la question. À nous, de toute façon, on va rendre notre territoire. Les Comores sont composés de 4 îles, etc. Donc, vous avez un double discours. En fait, qui montre bien que tous les gouvernements successifs, finalement dépourvus de pouvoir, ou plutôt sous influence toujours, donc n'ont pas suffisamment assez de force, où il y a aussi des influences internes au sein des gouvernements, et puis il y a aussi la corruption, il y a un tas de choses qui sont derrière, qui empêchent d'aller à l'avant par rapport à cette question. Maintenant, sur la partie juridique, pourquoi aujourd'hui, voilà, la question c'était...
C'était par rapport, je me réfère au communiqué de presse dont vous avez rendu public, et par rapport aussi à la Constitution, parce que vous dites que le gouvernement, clairement en plus, vous dites que le régime Azali aujourd'hui n'est pas crédible, en tout cas pour défendre la question de Mayotte ou pour défendre l'intégrité des Comores.
Oui, il y a peut-être juste le mot crédible à expliciter là dans notre propos. Sens, le président des Comores est garant notamment de l'intégrité territoriale.
C'est l'article 12 de la Constitution, si je dis pas.
Ce que nous disons, c'est que tout ce qu'il fait par rapport à la question de Mayotte montre qu'il n'a pas la volonté de rapprocher Mayotte. Donc il n'est pas crédible. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? D'où votre question qui va venir après, peut-être.
Je pense que notre juriste voudrait intervenir là-dessus.
Alors sur l'article 12, le président est garant de l'intangibilité des frontières telles qu'elles sont internationalement reconnues, dit la Constitution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que lui qui traite le problème. Ça veut surtout dire que si le problème n'est pas réglé, c'est lui le responsable. C'est un article qui lui incombe la responsabilité. Donc aujourd'hui, on peut effectivement dire que cet article n'est pas respecté. Ce n'est pas un article qui lui donne l'exclusivité pour traiter le problème. C'est un article qui dit que si le problème n'est pas réglé, il sera le responsable, puisque c'est lui le garant. D'ailleurs, il n'a tellement pas l'exclusivité qu'en réalité, à chaque fois que vous traitez une question qui a un rapport avec le territoire, c'est-à-dire cession, adjonction, échange de territoire, la Constitution est très claire, il faut passer par le Parlement. C'est une loi. Donc, de toute façon, demain, quoi qu'il en soit, pour entériner n'importe quel accord, il va falloir faire intervenir les représentants de la nation. Donc, le président n'a pas l'exclusivité de ce problème. S'il n'est pas crédible, c'est à nos représentants, à la représentante de la nation, d'intervenir pour dire « vous ne respectez pas une des missions que vous a donné la Constitution ». Et d'ailleurs, peut-être on en parlera pour autre chose, mais il est garant de l'intégrité des frontières, il ne le fait pas apparemment. Il est garant du fonctionnement des institutions, il ne le fait pas non plus avec la Cour. Donc cet article ne dit pas « il est le seul à traiter », cet article dit « il est le seul responsable ».
D'accord.
Pour faire la nuance.
Je vois qu'on me dit qu'il n'y a pas assez de temps, alors qu'il y a encore une deuxième partie et des questions à aborder. On va essayer de s'attaquer un peu aux solutions dont vous proposez pour essayer de solutionner ce problème. Vous proposez qu'on aille vers un arbitrage international. Qu'en est-il réellement ?
Ben en fait, c'est une proposition, mais c'est ce que, quelque part, l'ONU a toujours montré... en tout cas aux pays qui revendiquent une partie de leur territoire qui est occupée, par exemple. On a la question de Palestine, on a la question... Voilà. Et honnêtement, je pense qu'il n'est pas possible de demander, en tout cas pour les Comores, un pays qui n'a pas une grande armée, un pays qui est pauvre, un pays qui n'a pas vraiment, même pour défendre... ce sont les frontières a besoin de se référer ou de signer des accords avec ou d'accepter de continuer ces accords de coopération militaire, économique avec la grande puissance. Il n'est pas possible aujourd'hui de dire que la solution viendra de la France, alors même que la France avance pour sauvegarder ses intérêts, pour grappiller de plus en plus la souveraineté des Comores. Le rapport de force est inégal. D'accord ? Il est complètement inégal. Inutile de préciser, la France est une grande puissance nucléaire, etc., puissance économique, etc. Donc, toujours, à chaque fois que la France se retrouvera autour de la table avec les autorités comoriennes, il y aura toujours cette inégalité de traitement de cette question, parce qu'il y a un rapport de force qui est inégal, il y a iniquité sur le traitement des droits, et la France va toujours mettre en avant l'idée d'appliquer le droit français sur un territoire qu'elle occupe, alors que le droit international, est au-dessus du droit et ça le juriste pourra peut-être
je voulais le demander par rapport à la solution que vous proposiez sur l'arbitrage. Est-ce que juridiquement aujourd'hui cette solution est envisageable?
Alors la solution de l'arbitrage est envisageable, on pourrait même aller plus loin, on peut faire un arbitrage, on va dire c'est le premier seuil de la solution, mais on peut quasiment aller au contentieux. Il suffit d'ailleurs de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs dernièrement, je crois qu'il y a 2 jours, l'île Maurice vient de remporter une victoire juridique importante face à la Grande-Bretagne. Là, vous avez quasiment les mêmes rapports de force. Face à la Grande-Bretagne, pour les îles Chagos, dans lesquelles ils considèrent que la Grande-Bretagne les occupe illégalement. Mais il a gagné la victoire comment ? Par le droit. Il les a gagnés devant la Cour de justice de l'Union européenne, devant la Cour internationale de justice. Donc on peut, si l'arbitrage ne marche pas, on peut aller jusqu'au contentieux. Alors très bien, le contentieux, ça a une valeur symbolique, mais le symbolique a beaucoup. Il a beaucoup d'impact en droit international, surtout dans les relations internationales. Donc moi, je pense que l'arbitrage est assez crédible. De toute façon, il va falloir qu'il y ait une tierce personne pour rééquilibrer les forces. Et ensuite, on peut penser d'aller au contentieux. On avait même une fois pensé aller pire que dans le contentieux international, c'est d'aller quasiment dans le contentieux pénal. Ça se fait dans d'autres pays qui sont occupés. On peut aller devant la Cour pénale internationale. On peut considérer toutes les personnes qui meurent par milliers dans les îles comoriennes, dans les eaux mahoraises, comme étant quasiment un génocide ou un crime contre l'humanité. On peut aller devant la Cour pénale internationale. On peut intenter une action. D'ailleurs, avec des amis et des collègues, on y réfléchit. Et on peut y aller devant la Cour pénale internationale et le faire. Et d'ailleurs, l'avantage du contentieux pénal, c'est qu'il ne poursuit pas les États. Il poursuit des personnes. Donc c'est plus facile d'intégrer une juridiction de cette manière-là, parce qu'on ne vise pas l'État directement, mais on vise ses responsables. Donc il y a plusieurs solutions du point de vue juridique. On pourrait aller vraiment au contentieux. Mais encore faudrait-il avoir des responsables qui soient stratèges, visionnaires et audacieux.
Là, on voit que les solutions n'y manquent pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si l'État comorien n'ose pas aller au front contre la France, c'est pas par peur de représailles qu'ils disent que si aujourd'hui on ose s'attaquer à cette grande bête qui est la France, peut-être qu'il y aura des représailles, qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'en assumer les conséquences?
Oui, nous allons pas faire une analyse de type psychologique. Ça a un fait, ça fait 40 ans, c'est pas fait, quoi. Enfin, à part au début, là, au temps d'Ali Swali, la question, elle est laissée. Et je rappelle qu'en 2005, dans notre communiqué, nous avons dit que les élus ici ont dit, votre président a mis la question au frigo, ce retrait. Alors, comme disait le juriste tout à l'heure, même au niveau symbolique, c'est important, mais ce n'est pas rien du tout. C'est-à-dire que la question inscrite à l'AG gênait beaucoup la France. Et donc, quand nous disons qu'il faut la remettre et que c'est un forfait de l'avoir retirée, ça veut dire que ça plaidait en notre faveur. L'un de nos partenaires qui a fait cette étude à l'ONU nous a dit à l'ONU, la diplomatie française s'occupe essentiellement de neutraliser la mobilisation internationale par rapport à la question de Mayotte. En faisant quoi? En allant voir les Africains, les Asiatiques, etc. Voilà.
Et, lobbying.
Et en faisant un fort lobbying. Et d'ailleurs, il nous est révélé que la secrétaire donc, à l'ONU de l'AG, c'est une Française. Donc, ils y travaillent au corps à corps pour qu'il n'y ait pas justement ce geste symbolique, déjà. Donc, nous, on est de notre place en tant que société civile. Nous avons travaillé le point, c'est que en tant que société civile, il nous est possible, et maintenant pour nous c'est nécessaire, d'aller à l'ONU pour faire connaître, pour porter la question. La deuxième des choses, c'est que nous devons nous intéresser à toutes les instances internationales. Et bon, notre collectif a déjà fait un premier pas en direction du Conseil de l'Europe. Et là, nous demandons une résolution sur quelle base? C'est le fait que ce fait d'occupation coloniale a généré beaucoup de morts, a généré beaucoup d'abus quant à l'entrave à la libre circulation. Les Comoriens qui ont été maltraités jusqu'au décasage récemment en 2016. Toutes ces questions-là doivent remonter et être sues par l'Europe, qui est quoi? Qui aujourd'hui, en tout cas officiellement, couvre l'occupation de Mayotte à la France, puisque le RUIP fait de Mayotte un espace européen, où donc l'Europe est partie prenante par rapport à ça. Et donc, aujourd'hui, nous avons un message important qui est la conclusion de notre communiqué, c'est que la société civile doit se mobiliser plus que jamais parce qu'on a fait le tour. Ça ne sera pas fait autrement qu'à partir d'une forte mobilisation citoyenne.
J'avais juste deux choses à rajouter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ce que Mabadi vient de dire. Il faut savoir que la France utilise souvent, pas que la France, mais surtout la France, on peut trouver des preuves, hein, utilise souvent les instances internationales, à savoir l'Europe, l'ONU, pour des intérêts exclusivement français. C'est-à-dire, là, on peut le voir sur pas mal de pays africains. C'est-à-dire, bon, quand il y a des enjeux économiques, imposer des marchés, etc., ou récupérer des marchés, etc. Donc, il peut y avoir aussi des actions qui ne sont pas, qui sont des actions opaques qu'on ne voit pas, etc., pour mettre la pression sur certains pays africains pour dire, voilà, si vous ne faites pas ça, si vous n'ouvrez pas le marché.
C'est du chantage.
Non, c'est du chantage. Mais il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Donc, la France utilise souvent l'ONU pour des intérêts.
C'est justement pour ça que j'ai posé la question, pour savoir est-ce que l'État comorien aujourd'hui, il se dit pas que on n'est pas capable aujourd'hui de faire face à ce pays, mieux
vaut. Non, le juriste l'avait bien dit là, c'est-à-dire il y a des outils juridiques. On peut très bien aller au pénal, on peut aller au cour pénal international, on peut mener des actions. Il y a beaucoup de choses. Il faut pas dire, voilà, quand On a le droit de revendiquer quelque chose. Il faut aller de l'avant. J'ai soulevé tout à l'heure les questions de corruption, les questions... Tout ça, c'est lié. Hein. C'est-à-dire, quand on vous dit, bon, maintenant, on va pas parler, on va retirer la question de Mayotte à l'ordre du jour de l'ONU, on va repayser, on va faire ceci, etc. Donc, on va vous rallonger un petit budget par-ci, un petit... voilà, etc. Et à condition que vous n'en parlez pas trop. Et tout ça, ça se passe. On le sait.
Mais le dilemme, il est là, c'est qu'aujourd'hui... En fait, l'État comorien est confronté à deux choses. C'est revendiquer le territoire comorien de Mayotte, mais aussi garder les relations avec la France. Est-ce que c'est possible ces deux choses-là ?
Relations biaisées, il faut appeler un chat.
Est-ce que c'est possible ces deux choses-là aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut revendiquer le territoire maoré avec tout l'arsenal juridique qui est à notre faveur, mais aussi garder cette relation que vous appelez biaisée avec la France ?
Moi, je pense que c'est impossible. Pour l'instant, il faut que la France reconnaisse l'intégrité territoriale des Comores, à savoir composée de quatre îles. Et quand, si on avance à ce niveau-là, là, on peut garder vraiment une relation dite amicale ou de coopération économique, comme tout ce qu'ils voudront. Mais là, depuis 42 ans, ce n'est pas possible d'avoir cette relation biaisée qui faute...
Vous militez pour la rupture des relations diplomatiques avec la France, si j'ai bien compris.
Non, une reconnaissance de l'intégrité territoriale des Comores évoluée vers autre chose.
Donc nous arrivons à la fin. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que les questions juridiques ont été bloquées par nos autorités. Et en tant que responsable CEDISCOM, nous sommes heureux aujourd'hui de changer quelques mots avec Rafsanjani, que nous avons sollicité avec d'autres juristes dans le cadre d'un pôle juridique. Le fait est que nous avons des partenaires, des juristes internationaux qui portent le sujet, donc le sujet a beaucoup avancé. Il nous tient à cœur que ces compétences-là soient vraiment appropriées par des citoyens comoriens. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas abordé le HCP et je voudrais regrouper en fait la dernière question. Le HCP est apparu, était apparu sous forme GTHN à l'époque où la Foucault combattu. C'était en 2008 sous Sambi et s'est enterré. Et on arrive en 2013 avec Ikililou. Et le HCP donc, devait servir justement à ratifier des accords pour que la responsabilité des morts, dit des morts baladures, incombe à la partie comorienne. D'accord ? Et donc, et ceci a été préparé, comme je disais tout à l'heure, retenez bien les noms parce qu'il n'y a pas de hasard, à partir des... ça a été préparé dans une rencontre ici au Quai d'Orsay avec, sous le patronage d'un certain Hamadi Bolero, qui aujourd'hui est aux affaires à la COI, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je voulais faire le point sur un dernier point qu'on n'avait pas pu aborder, à savoir la question des assises. C'est-à-dire que... Oui. D'accord. Et le HCP, c'est quoi ça que... En 2014, lorsque Hollande était au sommet de la COI, il va à Mayotte et il dit il est hors de question de remettre en question le fait que Mayotte est française. Et il vient aux Comores, là à Moroni, et il dit vous avez du pétrole, vous avez des ressources gazières, nous allons les exploiter ensemble. Donc là, il n'y a pas besoin de croquis, quoi. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse dans la présence, en tant que Français, dans la présence dans l'océan Indien, en fait, c'est les ressources minières. D'accord ? Mais en même temps, il est hors de question de s'asseoir autour de la table pour négocier un bon vivre ensemble. Donc là, je vais à notre position, elle est radicale. C'est pour ça que j'ai parlé des assises. Il fallait remettre en question les modes de développement et de coopération tels qu'on les a eus, d'une puissance étrangère, et s'ouvrir comme les pays vraiment émergents de l'Afrique qui sont dans un multi-partenariat. Et là, oui, on voit plus clair dans le développement. Et là, on a peut-être plus d'audace sur les questions juridiques, culturelles et autres.
Je vois qu'on nous dit que le temps qui nous est imparti commence à s'écrouler. Je crois qu'on va laisser la parole à notre juriste de conclure cette partie avant d'entamer la deuxième partie qui sera portée sur les assises. Monsieur Rafsanjani.
Alors, moi, ce que, en guise de conclusion, moi, ce que je dirais, c'est que il existe des moyens, parce qu'en droit, il y a des défaites qui ressemblent beaucoup à des victoires, et surtout en droit international. Si vous mettez la question de Mayotte à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, si vous avez 14 votes pour et un droit de veto, on aura perdu le vote, mais symboliquement, on l'a gagné. Donc il faut insister sur le côté juridique, parce que chaque défaite, c'est qu'on a parlé de la question, et à chaque fois qu'on parle de la question, c'est une petite victoire, parce qu'aujourd'hui la question a tendance à se noyer dans des gros mots de coopération, de développement, de je ne sais quoi, et on oublie en fait la ligne de mire qui est celui d'un territoire occupé. Vous savez, c'est la même stratégie que fait Israël avec Palestine. Pendant qu'on discute à chercher des accords de paix, on avance la colonisation. Après, on dit « Ah mince, il y a la colonisation ». Et bien là, c'est pareil. Pendant qu'on est en train de discuter, on avance. On avance, on départementalise, on repaysise, on avance. Eux, ils n'attendent pas. Donc, il faut qu'on continue dans le droit. Et même dans nos défaites, il faut qu'on y voit des victoires et qu'on s'accroche.
Vous restez avec nous pour la deuxième partie de notre émission qui portera sur les assises. Je vais demander à Abou de nous passer une chanson en attendant de reprendre.
Écoutez la différence avec Dunia Web, votre meilleure radio. Dunia Web.
19h17 ici à Dunia Web. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission et maintenant il sera question des assises nationales censées se dérouler aux Comores à partir du 5 février prochain. Et là, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous fassiez une lecture brève mais concise sur la situation sociopolitique aux Comores aujourd'hui, qui prévaut aux Comores aujourd'hui.
Oh là là, la question vraiment, là, c'est une, là, une colle.
Direct. Pour essayer de situer un peu le cadre des assises, mais aussi sur pas mal de sujets qu'on va aborder.
Ben, en fait, il y a des craintes. Bon, moi, je vais dire, je vais donner les éléments qui sont à ma disposition par rapport à la situation sociale, économique et politique plutôt au pays. Donc, d'après ce qu'on peut lire à travers les réseaux sociaux, essentiellement Facebook, puisque vous savez qu'il y a la connexion interplanétaire grâce à Facebook. Donc, on voit bien qu'il y a des craintes par rapport à ce qu'on pourrait appeler un piétinement un petit peu de la Constitution française, de la Constitution comorienne, pardon, un piétinement du droit. Donc, il y a pas mal de corruption en ce moment, puisqu'on, la question c'est de rendre compte un petit peu la situation sociale. Donc, des détournements de fonds dans des banques, dans des institutions comoriennes. Et on regrette, bon, la population regrette cela, d'autant plus qu'on sait que la justice n'est pas du tout efficace aux Comores, à savoir, il y a quand même des enquêtes qui sont faites, il y a des personnes qui sont arrêtées, les personnes incriminées sont arrêtées. Et ensuite, il y a des condamnations, mais sauf que, bon, au bout d'un certain temps, bon, ces personnes-là sont libérées. Donc, alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'association sociale et politique ? De manière générale, on peut parler de crise, ou plutôt une rupture par rapport à la crédibilité du gouvernement actuel d'Azali depuis qu'il est élu. Donc c'est vrai qu'il a été bien reçu parce que il a dit qu'il allait faire en sorte que les Comoriens puissent avoir la lumière, l'électricité.
Discours type de campagne.
C'est fait. Bon, il y a tout un travail, des travaux qui sont mis en place par rapport à l'eau, etc. Bon, c'est très bien, mais cependant, on remarque quand même un fléchissement par rapport à ce qu'il appelle lui entre guillemets émergence, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction. Par rapport à ce qu'il avait préconisé au départ, c'est-à-dire aider les jeunes, un emploi, un emploi, etc. Ces arguments de campagne finalement ne sont pas suivis de fait, et il y a une réelle crise, il y a une rupture entre ce que Azali avait dit pendant sa campagne et la société comorienne. Voilà ce que je peux dire, les éléments que j'ai par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu à travers les réseaux sociaux. Donc maintenant,
est-ce qu'on peut être un peu bref parce qu'il y a des
voilà non mais là on a enfin, j'espère d'accord. avoir répondu.
Avant de rentrer vraiment dans les assises, est-ce que Rafsanjani est toujours avec nous?
Oui, je suis là. Oui,
en fait, je suis là avec vous. C'est une question par rapport à la paralysie de certaines institutions, notamment la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, vous avez écrit récemment sur Allotone pour parler un peu de ça. Et aujourd'hui, on nous parle d'assises pour aller parler, de faire le bilan, mais aussi jeter les jalons sur les Comores de demain. Mais quelle importance pourrons-nous donner à ces assises si aujourd'hui on a des textes qui ne sont pas respectés? Est-ce que réellement c'est le moment de parler des assises, sachant que les textes qui sont déjà écrits, qui sont là, ne sont pas respectés? Il y a une volonté manifeste de la part des autorités de les asphyxier.
Alors là, je pense que vous avez entièrement tout dit. En fait, ce qu'on remarque, c'est que la Constitution, et avec elle les institutions, qui, je rappelle à chaque fois, sont là pour nous protéger à la base, eh ben, cette constitution est presque suspendue. Elle est neutralisée. Et quand vous avez un président de l'Union des Comores, qui, je ne parle pas de la personne, je parle de la fonction, quand vous avez un président de l'Union des Comores qui a autant de pouvoir, des pouvoirs quasiment sans contre-pouvoir, si en plus de cela, les autres institutions sont neutralisées, vous pouvez craindre le pire. Donc je pense, et je le dis toujours, ce n'est pas les textes le problème, puisqu'ils ne sont même pas respectés. Le problème, c'est la pratique des hommes. Donc aujourd'hui, on va aller faire des assises, je ne parle pas du côté politique, je parle du côté institutionnel, pour aller discuter de quoi? On va aller dire ceci ne fonctionne pas, mais est-ce qu'on a essayé de le faire fonctionner ? Exactement. Ceci ne marche pas, mais est-ce qu'on a essayé de le respecter ? Donc j'ai beaucoup de réserves sur cette manière de faire. Et lorsque le président de l'Union des Comores, en plein vœu devant la presse, explique que la Cour constitutionnelle, c'est très bien, il faut qu'il y ait des juges, mais bon, comme il n'y a rien qui m'oblige de le faire,
ce qui est faux. Il n'y a pas de moyen de coercition, comme il dit, il n'y a pas de moyen coercitif, il a dit.
Voilà, il dit qu'il n'y a aucun moyen coercitif, alors que la Constitution ne fait que ça, le contraindre à le faire. Et donc, et en plus de ça, il nous explique, mais on va aller voir ça dans les assises. Mais les assises, c'est quoi ? Les assises, ce n'est pas une institution de la République. Les assises sont prévues nulle part. Aujourd'hui, on doit respecter le texte qui est en vigueur. Il ne faut pas le renvoyer à quelque chose qui n'est pas en vigueur et qui n'est prévu nulle part. Donc oui, j'ai beaucoup de réserves sur cette manière de faire. Je la trouve vraiment contestable.
Là, on parle d'assises, mais où est venue cette idée ? Parce que ce n'est pas anodine qu'on est là aujourd'hui à parler d'assises. Pouvez-vous nous rappeler un peu d'où les origines, la genèse des assises nationales ?
Oui, effectivement, ça va mettre du lien avec tout ce qu'on a dit, puisque de mémoire, ça remonte à cette manifestation pendant les Jeux des Îles, où les sportifs sont rentrés et ont été soutenus par différentes parties prenantes. Ils se sont manifestés contre, en fait, les actes de...
Les athlètes maorais défilent avec...
Voilà, les athlètes maorais défilaient avec le drapeau français. Voilà.
Et donc, là, il y a eu ce qu'on appelait le mouvement du 11 août, à l'époque. Et assez rapidement, il était question donc de mettre en place des assises. À l'époque, ça faisait, on parlait des 40 ans d'indépendance. Donc cette idée, elle est bien en tant qu'elle émane de la société civile qui veut faire un bilan. Mais voilà, les problèmes ont commencé là parce que, à mon sens, le travail n'a pas été mené avec, on va dire, une méthodologie convaincante. C'est-à-dire que les initiateurs se devaient de définir des axes prioritaires. On va parler de quoi ? Le développement a échoué, c'est pourquoi ? Donc, quelles sont les questions que nous allons... Tout à l'heure, on parlait des coopérations, des types de coopération. Hein ? Et donc, là, quelles sont les questions liées au développement que nous allons adresser ? Parce que le but, c'est de faire un bilan sur ce qui n'a pas marché, pour ensuite dire, voilà, maintenant, le gouvernail, on va le tourner différemment. Au cœur de cela, quand même, il y avait cette fameuse question de l'île comorienne de Mayotte qui est intrinsèquement liée à notre rapport avec l'occupant français. D'accord ? Donc ça, ça ne peut pas être écarté. Et dans les assises actuelles, on ne les a pas écartées, mais on met beaucoup d'autres choses en avant. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on veut nous entraîner dans une espèce de paradigme orienté développement, hein, du développementisme, pour dire vous êtes pauvre, ce qui compte c'est de voir comment vous allez vous enrichir. Vous êtes pauvre mais on pense que vous allez avoir du pétrole et on veut notre part. Et donc, pourquoi est-ce que... c'est une technique de l'occupant français en particulier, ce qu'on appelle la guerre des statuts. Alors, on va créer des commissions, on va dire le Mayotte va avoir un statut différent quant au rapprochement humain et autres, mais là, on n'est pas dans le cœur du droit en tant que tel.
Justement, aujourd'hui, on voit que la société est divisée, que ce soit les politiques, voire même la société civile elle-même, elle est divisée. Quelle est votre position aujourd'hui par rapport aux assises ? Il y en a qui disent qu'il faudrait participer. Il y en a qui disent non, dans le format actuel, ça ne sert à rien de participer. Voilà, alors, j'aimerais bien connaître votre position.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut bien comprendre que les assises, à l'origine, issues donc du mouvement de 11 août, de la société civile, c'était des assises nationales et citoyennes, d'accord ? C'est-à-dire, ça ne devait pas être, on va dire, ça devait être soutenu par l'État, mais pas, l'État ne devait pas se substituer, ou plutôt...
Monopoliser
et gérer ou conduire les assises, d'accord ? C'était l'idée de départ, hein. C'est pas moi qui le dis, donc c'est le mouvement du 11 août, avec M. Bazzi, c'est ça, qui voulait des assises donc citoyennes et nationales. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, donc, des concertations, on s'est aperçu que l'État prenait le dessus et politisait, entre guillemets, si vous voulez, parce qu'après certains peuvent ne pas être d'accord, la question, à savoir, prenait la direction finalement des assises en mettant en évidence plutôt des positionnements politiques dans son intérêt, sur sa vision, comment. Voilà. Donc, et ça, ça n'a pas. Ça a été tout de suite décelé par. Les membres du mouvement du 11 août et il y a eu donc certains qui sont retirés, c'est-à-dire qu'en gros la substance initiale des assises a été détournée, tronquée et certains parlent de détournement d'idées, à savoir qu'Azali veut plutôt amener les assises vers la suppression de la tournante, mais en fait il l'a jamais dit, hein. Il dit, bon, lui évidemment il dit non, hein. Il dit non, les assises c'est pour tous les citoyens, etc. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, après je vais être bref, ce qu'il faut retenir, c'est que si aujourd'hui il y a une confusion, parce que d'un côté l'État dit bon, c'est ouvert à tous les citoyens, vous pouvez venir, etc., mais de l'autre il oublie que l'État a quand même précipité la nomination du CEPAN en voulant bien sûr imposer entre guillemets les personnalités qui pourraient défendre plutôt ces positions, etc. Et il y a, alors, ce qui a été revendiqué par certaines associations et certains mouvements de la société civile comme Oulézi, c'est un parti politique, mais d'autres, c'est qu'il y avait une iniquité sur la représentativité justement des citoyens comoriens, aussi bien de la diaspora qu'au Comor, mais surtout de la diaspora. Voilà. Donc après, ils ont essayé de trouver des arrangements en nommant Darchar Mikidash, qui normalement était issu du M11, mouvement du 11 août, et en même temps, après, il a une casquette de la diaspora. Ils ont essayé d'arranger un petit peu. Là, les dernières informations que j'ai eues, c'est que déjà, j'avais oublié de préciser qu'apparemment, ça ne serait pas le 5 février, ça serait le 22 février. Ah. Donc, oui, ça a été décalé. Voilà, hein, c'est ça, hein, Abou, voilà. Donc, ça a été modifié parce que, justement, je pense qu'on va arriver là. Nous, en tant que société civile, on a des raisons de nous poser des questions sur l'efficacité, sur la méthodologie de ces assises.
D'accord, on va en revenir. Et là, maintenant, on va diriger vers notre juriste. En fait, aujourd'hui, la plupart des gens qui sont sceptiques par rapport à la tenue des assises, ils disent que c'est une façon pour le président de la République de pouvoir changer la Constitution, supprimer la tournante et s'éterniser au pouvoir. Est-ce que, d'un point de vue juridique, le président de la République a besoin de passer par les assises pour changer la Constitution ?
Alors, pour modifier la Constitution, je n'arrive pas à percevoir sa stratégie, parce que réviser la Constitution est une procédure spéciale pour ça. Et la procédure, ce n'est pas de faire des assises, hein. La procédure, c'est soit on passe par les parlementaires, soit on passe par la voie du référendum.
Je rappelle que c'est pas lui qui le dit, mais ce sont ses opposants qui disent que c'est le but final qui est recherché.
Oui, je pense que en réalité, ce qu'ils craignent, c'est que les assises, ça légitime ses ambitions. C'est pas vraiment la légalité, c'est plutôt la légitimité. Peut-être qu'ils pensent qu'effectivement, si des assises qui sont censées être nationales et citoyennes viennent dire en fait la tournante c'est pas bien, il faut supprimer, ça pourrait légitimer plus tard sa volonté à ce moment-là de suivre la vraie procédure pour supprimer la tournante. Donc c'est quelque part une manière détournée de se greffer une légitimité dans des ambitions qui seraient personnelles. Et je pense que c'est ça que l'on craint. Mais le droit reste le droit, la procédure. Aujourd'hui, si on veut modifier quelque chose dans la Constitution, il va falloir passer par la procédure qui est prévue et ça risque d'être très compliqué pour lui.
Solihi qui pose une question. Le président peut insister sur ce point. Est-ce que ce sujet de tournante est indiqué dans les assises ?
Alors, dans les assises, ils ont utilisé une formulation qui est assez géniale, entre guillemets. C'est qu'ils disent que les assises vont aller réfléchir sur des nouvelles règles de gouvernance. Et donc, dans nouvelles règles de gouvernance, vous pouvez y mettre tout et n'importe quoi, y compris la tournante. C'est pour ça que d'ailleurs, lorsque le décret a été pris, j'étais parmi les premiers à dire que ce décret était au mieux inconstitutionnel, Au pire, il était anticonstitutionnel, parce que vous ne pouvez pas, par un acte juridique, donc par un décret, prévoir la fin de la Constitution en disant on va réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Ce n'est pas possible dans un acte juridique, dans un décret. Donc je pense qu'il ne l'a pas dit qu'il va s'attaquer à la tournante ou à ceci ou à cela, mais il a dit mais on peut l'inclure dans les nouvelles règles de gouvernance à poser. Ça peut inclure la tournante, ça peut inclure le système fédéral, ça peut inclure l'autonomie des îles, ça peut inclure plein de choses. Donc on est en mesure aujourd'hui d'avoir des réserves.
Parmi les points critiqués aujourd'hui, c'est la composition du comité de pilotage, ce qu'on appelle le CEPAN. Mais on voit que la société civile, enfin, en tout cas le mouvement du 11 août, elle est représentée à l'exception peut-être d'une seule personne, qui est Mohamed Idriss. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui le comité n'est pas inclusif, sachant que la majeure partie des membres, en tout cas des forces vives de la nation, sont représentés, peut-être au niveau des institutions, il n'y a que l'exécutif de Nzouani qui n'est pas représenté. Est-ce que vous pensez que ce comité aujourd'hui n'est pas inclusif?
Alors, nous avons essayé de mener une réflexion pour dire on n'arrive pas à suivre comment ça se passe, c'est quoi la méthode. Donc, d'abord... Initialement, on s'attendait à ce que cette volonté donc, de citoyenne amène à mettre en exergue un certain nombre de questions cardinales qu'il faut résoudre. Et à partir de là, pour résoudre ces questions-là, on se donne le temps de les résoudre. Se donner le temps de les résoudre, c'est par exemple on a un point sur la Constitution, par exemple, si on s'interroge sur les moyens de retour de Mayotte, si on s'interroge sur le type de coopération, sur ces questions d'émergence, etc., à un moment donné, vont intervenir des mieux-disants, quoi, c'est-à-dire des experts, d'accord ? Mais qui vont répondre à des questions qui émanent d'en bas. Or, aujourd'hui, on est frappé par deux choses. La première des choses, c'est beaucoup d'autoritarisme. On nomme des gens par décret. D'accord ? Donc, bon, c'est pas la peine de voir en quoi est-ce que c'est orienté. On ne sait pas en quoi c'est orienté, mais il y a une orientation à partir de celui qui nomme. D'accord ? La deuxième des choses, c'est la précipitation. 5 février ou 22 février ? Pour traiter quoi ? C'est-à-dire, il y a un temps, là, on ne sait pas ce qui va se traiter. On nous a juste dit, et nous, on avait alerté sur les réseaux là-dessus, on nous a juste dit qu'on va recruter des consultants pour traiter des axes qu'on a choisis comme ça. Est-ce vraiment cela l'intention initiale ? Est-ce vraiment cela les gros problèmes d'un pays qui est en sous-développement avec de grosses carences sur le système sanitaire, un gros problème sur l'éducation ? L'éducation des jeunes, par exemple, avec des modes de coopération, de développement, toutes ces questions-là, le passé des années 80, tout ça. C'est dans les 40 ans qui ont fait beaucoup de mal au pays. Est-ce que les gens ne sont pas à même de remonter quelles sont les vraies questions qui tiennent à cœur à tout un chacun, on va dire, pour aller de l'avant et tourner la page de ces 40 ans d'échec.
Et que faire concrètement aujourd'hui pour essayer d'éviter cet échec annoncé ? On ne sonde pas les cœurs et les reins, on ne sait pas réellement ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui, la plupart, en tout cas la majorité de la population comorienne est sceptique et il ne sait pas vraiment ce qui en découlera de ces assises. Donc que faire aujourd'hui réellement pour sauver le soldat assis, si j'ose le dire ?
Je pense que je vais répéter... Ce qui a été soulevé par la plupart des mouvements de société civile, par exemple l'ESI, avait préconisé à ce que le décret soit revu, soit annulé, et que Azali fasse un autre décret, par exemple, pour que déjà la composition du CEPAN, puisque c'est la question qui a été posée tout à l'heure, soit plus inclusive, soit représentative des citoyens comoriens dans leur ensemble, que ceux qui sont à l'étranger ou aux Comores. Ça, c'est un premier point. Donc, alors que le gouvernement avait bien reçu l'information, enfin le président Azali avait bien reçu l'information, mais n'en a pas tenu compte.
C'est entêté, oui.
Voilà, il n'en a pas tenu compte, aucune modification donc du décret. Donc alors la solution, voilà, on redit encore. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est Oulézi et d'autres et membres du M11, etc. c'est de rendre vraiment les assises nationales inclusives, c'est-à-dire ouvrir sans dire que bon, tel parti politique ou tel parti n'est pas reconnu, parce que vous savez qu'il y a une loi qui, ouais, qui délimite les partis qui sont reconnus, voilà, qui sont reconnus par l'État comorien, et d'autres partis qui sont annulés. Et à quel titre? Pourquoi on interdirait un parti politique? Pourquoi? Pour quelles raisons? Quels sont les critères d'acceptation de l'existence d'un parti politique ou pas? Donc, si on veut vraiment que les choses s'apaisent et qu'on sente et que tous les citoyens comoriens soient mobilisés, parce que ce n'est pas une mauvaise chose, on n'est pas là pour critiquer, pour dire qu'il ne faut pas faire des assises. Ce n'est pas l'objet. Au contraire, c'est une bonne occasion pour repenser la société comorienne, pour savoir où était vraiment le mal, où est le mal, pour que nous puissions préconiser vraiment des solutions à l'avenir et que nous puissions... Voilà.
Vous ne pensez pas qu'il est déjà trop tard, là?
Non, ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Là, Mabadi a parlé de calendrier. Il y a une réelle précipitation. Il y a quelques mois en arrière, je vais dire, quelques mois en arrière, je peux dire l'année dernière, en 2017, carrément. Je vais dire, quand cette idée était repartie des assises, on a dit, alors c'était prévu pour quand déjà? C'était avant, en novembre?
Décembre.
C'est d'abord prévu en décembre. Et puis janvier, et puis février, le 5 février, maintenant on est au 22 février. On a dit déjà que décembre, c'était trop tôt. Il faut un an de préparation, un an. Alors, comme je disais tout à l'heure, on est en droit de poser la question sur la méthodologie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, on a fait un travail hier de réunion, à savoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que le CEPAN va réunir, il va y avoir des sous-comités qui vont partir dans chaque île ou dans chaque région pour poser des questions? Alors, il va y avoir une rencontre, une réunion de village. Est-ce qu'il va y avoir une réunion entre partis politiques? Ensuite, il va y avoir des personnes qui vont être nommées par le CEPAN, qui vont recueillir les idées, ensuite qui vont faire une synthèse. On ne sait pas trop ce qui va se passer. D'accord? Donc, or, c'est un travail quand même qui aurait fallu programmer un an à l'avance, réfléchir sur la question, comment on va aborder la question, quelle est la commission qu'on va créer, combien de personnes composeront la commission qui va organiser les assises. Et il faut savoir que, d'après ce que dit Azali, le CEPAN serait indépendant. Donc, et cela, ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure, à savoir si le CEPAN était vraiment indépendant, puis il n'y aurait pas la même mise, ou plutôt cette volonté de vouloir orienter ou proposer des sujets. Voilà, alors même que ce qui serait préférable, c'est des assises, de vraies assises nationales, d'accord, gérées par les citoyens comoriens, d'accord, que ce soit par région, que ce soit par village, etc., sans, avec le soutien de l'État, bien sûr, sans pour autant que, voilà, que l'État mette la main dessus et oriente les sujets de discussion, que ce soit sur l'intégrité territoriale ou l'économie ou la santé, etc.
On va prendre une intervention.
Oui, alors une question. Est-ce que les îles sont représentées? Puisqu'on sait aussi que chaque île veut avoir son représentant dans ses assises. Est-ce qu'ils sont vraiment représentés? La question à notre...
Non, oui. Je voulais poser une autre question qui serait purement juridique. Donc, je voudrais... Peut-être on va passer à ça parce que je vois Imran et il est... Ou bien on va le poser les deux en même temps. Moi, c'est sur la suite à donner aux résolutions qui seront prises des assises du point de vue juridique, parce que les assises ne sont prévues nulle part. Donc, quelle est la suite à donner du point de vue juridique? Est-ce que la valeur qu'il aura... Il y aura quoi, en fait, après les assises, monsieur Rafsanjani? Les résolutions sont prises.
Vous savez, l'histoire juridique, d'ailleurs, est là pour nous apporter des réponses. Nous, les assises, ce n'est pas une invention comorienne. Dans les années 90, lorsqu'on a fait le tournant démocratique en Afrique, on a fait ce qu'on appelait des conférences nationales, qui d'ailleurs plus tard se sont déclarées souveraines, mais ça c'est un autre problème. Qu'est-ce qui se passait après ces conférences nationales? Eh bien, ces conférences nationales, ils prenaient ce qu'on appelle des actes. Donc, ils prenaient des recommandations, si vous voulez. Et ces actes des conférences nationales, c'est un document purement informatif, hein. Ce sont des propositions. Mais ça n'a aucune valeur juridique, ça ne rentre pas dans l'ordre juridique. Ça n'a pas de valeur. Maintenant, ces actes vont être transformés en objets juridiques. Et à ce moment-là, c'est aux institutions de choisir, soit par le biais de la loi, donc ces recommandations sont mises dans un projet de loi, et on les fait passer par la loi, soit ça rentre dans un projet de réforme constitutionnelle, et dans ce cas-là, on propose un projet de révision constitutionnelle en passant par les procédures qui sont prévues pour le faire. Étant entendu que de toute façon, celui qui a le dernier mot, encore une fois, hein, la souveraineté appartient au peuple, il l'exerce soit directement, soit par le biais de ses représentants, ça sera le souverain qui va s'exprimer vers la fin. Mais les recommandations des assises en soi n'ont aucune valeur juridique. Il faut qu'ils soient transformés, transformés par le biais d'un moyen, soit par la loi, soit par la Constitution.
Et un référendum, éventuellement, si parmi les sujets qui sont discutés et que l'État comorien, bon, par le président, décide qu'à l'issue des assises sur la question de Mayotte, par exemple, ou la question de la santé ou l'économique, une nouvelle réorientation économique.
Sur l'énergie.
Ou l'énergie, par exemple, le gouvernement ou le président peut très bien proposer un référendum.
Alors,
dans ce cas-là, oui.
Alors, justement, ça, c'est un point très important parce que c'est quelque chose qui est complètement, je pense, ignoré aux Comores. Aux Comores, il est impossible juridiquement d'organiser un référendum. C'est une des grandes lacunes de notre Constitution. La Constitution dit la souveraineté appartient au peuple qui peut l'exercer directement, sauf qu'en réalité, la Constitution n'a prévu aucun cas où le peuple peut justement exprimer directement. Le seul référendum possible dans notre Constitution, c'est le référendum constituant. C'est lorsqu'on convoque le peuple pour réviser la Constitution. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire un référendum comme celui qui existe en France par l'article 11, c'est-à-dire vous convoquez le peuple en lui disant « est-ce que c'est bien de faire ceci ? Est-ce que c'est bien de faire cela ?» C'est impossible. Il n'y a aucun fondement juridique qui permet de faire ce référendum qu'on pourrait qualifier de droit commun. Le seul référendum qui existe aux Comores, c'est un référendum constitutionnel, celui de réviser la Constitution. Donc c'est une des grandes lacunes qu'on a dans notre Constitution, c'est qu'il n'y a aucun moyen prévu pour redonner la parole au peuple.
Donc
le seul moyen,
C'est là aussi le danger aussi, non ?
Oui, ben oui, les gens qui ont fait cette Constitution, alors je ne sais pas ce qui est passé par la tête, mais c'est une grave lacune, parce qu'il n'y a aucun moyen de revenir au peuple. Le seul moyen de revenir au peuple aujourd'hui, c'est d'attendre une élection tous les 5 ans, ou bien de faire de dissoudre le Parlement, parce que là, on peut faire une élection, ou bien de réviser la Constitution. En dehors de ça, on ne peut rien faire.
On a une confirmation donc, du juriste qui montre bien sur les questions, en tout cas, que nous, société civile, nous posons et dont nous combattons, c'est-à-dire à savoir qu'il faut remonter à la genèse de la Constitution comorienne, c'est-à-dire qui a été sous Azali, d'ailleurs, Azali 1, et il faut savoir que les premiers rédacteurs, si j'ose dire, de cette constitution, ce sont des Français, hein, c'est Michel Rocard, etc.
C'est ça, oui.
Donc voilà. Donc il faut bien savoir que, quoi qu'on en dise, à chaque fois que vous aurez toujours la superpuissance derrière, et que l'État comorien consultera cette superpuissance pour un soi-disant développement économique et développement des institutions, etc., la superpuissance, est-ce que vous le vouliez ou non, mettra toujours en avant ses intérêts. Donc, il faut savoir que le juriste vient de nous surprendre. Vraiment, moi en premier, je crois que c'est tout le plateau là. C'est-à-dire que le peuple comorien ne peut pas aujourd'hui être consulté ou s'exprimer sur un projet quelconque, etc. Et là, c'est un danger.
Justement, avant de clore, parce qu'il y a une question qui revient tout le temps ces derniers temps, c'est la question de la tournante. On ne peut pas clore cette émission sans parler de la tournante. Il y a des gens qui disent, la tournante, elle est mauvaise. Certains disent qu'elle est bonne. D'autres disent, elle est mauvaise, mais il faut la garder jusqu'à 2031 en attendant la fin de ce cycle pour pouvoir la modifier. Mais là, aujourd'hui, vous venez de nous dire qu'on ne peut pas changer cette constitution. Mais comment faire ? Est-ce qu'on est condamné à rester dans ce que je peux qualifier de cercle vicieux, ça n'engage que moi, où il y a un moyen de contourner ce dispositif qui nous paralyse tous, ou qui va nous paralyser en tout cas.
On ne peut pas changer Constitution ?
On peut modifier la Constitution. C'est-à-dire que le seul référendum possible que vous pouvez faire, c'est un référendum pour réviser la Constitution. Qu'il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul sujet que vous pouvez soumettre au référendum, c'est les Comoriens, êtes-vous oui ou non pour cette révision ? C'est la seule chose que vous pouvez demander aux Comoriens. Vous ne pouvez pas demander aux Comoriens, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord pour légaliser le cannabis, par exemple ? C'est pas possible. Vous ne pouvez pas poser une autre question autre que la révision constitutionnelle par référendum. Le peuple comorien ne peut jamais s'exprimer sur autre chose, parce que la Constitution ne le prévoit pas. Donc pour la tournante est une question constitutionnelle. Si on veut supprimer la tournante, c'est une révision. On pourra passer par le référendum. Et d'ailleurs...
Mais quel est votre point de vue par rapport à la tournante ? Votre point de vue personnel ?
mon point de vue, je l'ai déjà souvent exprimé. Moi, je pense que la tournante, d'ailleurs, ça a été dit par la Cour constitutionnelle, la tournante, c'était une institution de crise. Elle a été imaginée à l'époque parce qu'il fallait répondre aux problèmes séparatistes. Le problème, c'est que plus on pratique la tournante et plus on fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'elle était censée nous protéger contre le séparatisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle nous renvoie à nos insularités et à nos appartenances insulaires. Donc, j'ai une vision qui est assez sévère envers la tournante. Mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de supprimer pour supprimer. Et on supprime, on fait comment après? Donc, tout ça, il faut y réfléchir. Mais je pense qu'à terme, il va falloir en finir avec cette tournante. Et surtout que la tournante, il faut peut-être le rappeler aux Comoriens, parce que ça, c'est quelque chose que je pense qu'ils n'arrivent pas à percevoir. La tournante est un dispositif qui est inapplicable. Elle est appliquée aujourd'hui, c'est un miracle. Elle a été appliquée 4 fois, mais c'est un miracle. Parce que le droit ne connaît pas de critères. On n'a pas de critères pour appliquer cette tournante. On nous dit la présidence est tournante entre grands Comoriens, Anjouanais et Moëliens, sauf que le droit aujourd'hui ne nous permet pas de distinguer entre les Comoriens. On ne sait pas qui c'est qui est Anjouanais, qui c'est qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, elle s'applique par miracle. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et un jour viendra où on ne pourra plus l'appliquer. On va bloquer sur les critères. Imaginez en 2021, je crois, une personne se présente en se disant « moi, je suis Anjouanais. Hein. Comment on fait pour vérifier ?» On ne peut pas.
D'accord. Et on aimerait bien rester un peu sur ce sujet, mais le temps ne nous permet pas. Et il y avait pas mal de questions à aborder, notamment sur la liberté d'expression. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en aborder tous ces thèmes. Donc, je pense que chacun aura 1 minute, 2 au maximum, pour conclure définitivement l'émission.
Je pense qu'on rappelle qu'on a eu quand même 1h40 d'émission sur ce sujet, sur le sujet qu'on a traité.
On n'a pas vu le temps passer.
D'accord, donc chacun aura 1 minute maximum pour conclure l'émission avant de nous dire au revoir. On va commencer par le responsable de la communication de CDISCOM.
Ah, donc moi je vais être très sévère. Je vais être très sévère par rapport. Par rapport à ma position et aussi je parle sous le contrôle du coordinateur du CDISCOM. Bon, je pense que on est sur la même position de toute façon, c'est-à-dire qu'il faudrait que le rapport entre le gouvernement comorien et ceux qui vont venir change complètement avec la France, c'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait une vision de développement endogène, un calendrier propre à l'État comorien, d'accord, et qu'il y ait une rupture totale de la dépendance économique des aides issues de l'Europe, du FMI, de la Banque mondiale, et qu'il y ait une vraie indépendance. Elle se passe, elle s'exerce de manière endogène, c'est-à-dire que ce sont les Comoriens eux-mêmes, l'État comorien et le peuple comorien qui doit penser son propre avenir avec ses propres moyens, ses propres ressources, qui soient importantes ou pas, mais pas uniquement se référer, même s'il y a des aides internationales, etc. Mais l'histoire nous apprend que aujourd'hui, lorsqu'on demande un financement à la Banque mondiale, c'est un endettement. Lorsqu'on demande un financement au FMI, c'est un endettement. Lorsqu'on demande de l'aide à la France, c'est toujours se maintenir en laisse, c'est toujours ce qu'appelle un spécialiste en économie soutenir la servitude volontaire, en parlant du franc CFA. D'ailleurs, c'est un sujet qui est aussi important, dont on aura l'occasion d'en parler. Voilà, ma conclusion serait celle-là, c'est-à-dire il faudrait une rupture totale de la diplomatie telle qu'elle est depuis l'indépendance des Comores jusqu'à maintenant, et repenser autre chose.
On appelle la diplomatie de la mendicité. Je vais vous laisser la parole aussi pour conclure. On va finir avec le juriste pour qu'on ne dise pas de bêtises.
Moi, je rebondirai juste pour compléter notre propos concernant les assises. Nous avons lancé un appel, là, je crois, à un de nos écrits, pour dire que la société civile doit se réapproprier ses assises et les traiter de manière autonome. Parce que nous avons une élite qui a beaucoup de choses à dire. Il nous faudra pour cela donner du temps au temps. Là, nous avons appris avec notre juriste que ceci est possible si nous nous donnons les moyens, à savoir quelle est la plateforme, quels sont les voilà, quels sont les moyens que nous nous donnons pour engranger des synthèses sur des sujets qui nous paraissent déjà qu'on va sélectionner, qui sont les plus importantes, et arriver à des actes. Ces actes n'étant pas juridiques, c'est pas encore moins exécutoire, ça nous permet d'avoir des propositions quant à notre vision de l'avenir des Comores demain, et pourquoi pas mobiliser les parlementaires pour cela. Et de ce point de vue-là, comme on parlait de la Constitution tout à l'heure, je pense qu'il y a un travail à faire, puisque en particulier aussi les juristes parlaient de...
On va essayer d'être un peu bref, parce que...
Oui, oui. Et ils parlaient du pouvoir excessif du président. On a un régime présidentiel. Donc il y a des orientations à négocier pour qu'il y ait plus de place aux législateurs pour équilibrer. Et ceci donnera plus de chances à une mobilisation citoyenne de faire passer les meilleures idées.
D'accord. Mohamed Rafsanjani, votre dernier mot avant de clore.
Alors moi, je vais faire le lien. Vous savez, il me revient une phrase de Sankara. Il disait, beaucoup de gens se demandent c'est quoi l'impérialisme. Il faut regarder dans vos assiettes le grain de mil de riz importé. Il ne faut pas s'étonner que celui qui vous donne à manger, il vous dit aussi quoi faire. Donc je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à faire chez nous, c'est arriver à reconnaître que nous avons des talents, aussi minimes soient-elles, que nous avons des ressources, aussi minimes soient-elles, et qu'il faut arriver par nous-mêmes à arriver à nous en sortir. Et si demain, on doit réfléchir sur des choses de bonne gouvernance, de constitution, rappeler à nos dirigeants que nous avons des gens qui sont formés pour ça. Il faut peut-être arrêter d'aller chercher l'expertise ailleurs, parce que l'expertise est aussi comme rien. Et que donc, on y gagnerait à réfléchir entre nous, d'abord, et à trouver des solutions entre nous.
Voilà. C'est par là que prend fin notre émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre émission. Mais avant cela, je crois que M. Abou a quelque chose à dire avant de rendre l'antenne.
Oui, alors je voulais juste nous excuser auprès de nos auditeurs qui nous suivaient sur le live Facebook. Juste à les 5 dernières minutes ont été coupées, j'ai eu un petit problème sur le live Facebook, mais vous pourrez bien sûr suivre l'émission en podcast. Et on remercie encore une nouvelle fois nos participants de nous avoir donné la possibilité de faire cette émission d'éclaircissement aussi sur leur sujet qui entreprend. Ben, pour ceux et celles qui souhaiteraient participer à nos émissions, pourront nous bien sûr nous contacter sur la page Facebook de la radio. On a d'autres choses à dire, c'est juste voilà, merci.
Ben, un remerciement à Mabadi,
à Rakib aussi, à notre animateur qui et puis il me et puis monsieur Imra qui est le caméraman aujourd'hui qui a tenu le live pour vous.
Et Rafsanjani aussi.
Voilà, donc à tous ceux qui à notre aussi bien sûr à notre avocat qui nous a donné du temps et des explications.
Notre
juriste qui nous a éclairci, puisqu'il y a beaucoup de points qu'on est surpris, et c'est pour cela que nous disons que la communication, la liberté d'expression sont très importantes dans
ça
notre
Voilà.
Tu penses à Agua là. Bon.
Voilà, un petit pot. C'est pas simplement à Agua, mais à tous ceux qui se battent pour la liberté de l'expression. Donc voilà. Donc vous la DESCOM, vous faites parmi ceux qui.
C'est DESCOM.
À chaque fois, je.
C'est compliqué. Faudrait que je
voilà. Donc voilà. Bon, on vous remercie de nous avoir donné du temps, aussi de l'information aussi. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient bien sûr participer à l'émission, n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast sera mis bien sûr pour que vous puissiez réécouter l'émission. Voilà. Merci encore, messieurs.
Avec Dunia Web, votre meilleure radio, Dunia Web.